Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire La femme, extrait des œuvres de Sri Aurobindo et de la mère en français. Le titre de ce chapitre est Aux femmes à propos de leur corps. Corps, hein? Alors, premier extrait, la mère. Pour l'amour de Dieu, ne pouvez-vous pas oublier que vous êtes une fille ou un garçon et essayer de devenir un être humain. Chaque idée est vraie en son temps et en son lieu. Si elle essaye d'être exclusive et de persister après que son temps est passé, alors elle cesse d'être vraie. Avant de répondre à vos questions, je veux vous dire quelque chose que vous savez sans doute, mais qui ne doit pas être oublié si l'on veut apprendre à se conduire sagement dans la vie. S'il est vrai que dans notre être intérieur, nous sommes un esprit, une âme vivante, qui renferme le divin et aspire à le devenir et à le manifester parfaitement. Il est également vrai que pour le moment, tout au moins, dans notre être extérieur le plus matériel, dans notre corps, nous sommes encore un animal, un mammifère supérieur certes, mais construit comme les animaux et soumis aux lois de la nature animale. On vous a sans doute enseigné qu'une des particularités de mammifères est que la femelle conçoit l'enfant, le porte et le construit dedans d'elle-même jusqu'au moment ou pleinement formé, le petit sort du corps de la mère pour vivre indépendamment. D'ailleurs, ainsi, en vue de cette fonction, la nature a pourvu la femme d'une quantité supplémentaire de sang qui doit être utilisée pour l'enfant en formation. Ainsi, la femme normale n'est pas ridiculement douillette après avoir pris des précautions de propreté indispensables, ne devra plus y penser, mènera sa vie quotidienne comme à l'ordinaire, sans rien changer à son programme. C'est la meilleure façon de bien se porter. Quel serait l'idéal en éducation physique pour une fille étant donné son sexe? Je ne vois pas pourquoi il y aurait un idéal spécial d'éducation physique pour les filles différent de celui des garçons. L'éducation physique a pour but de développer toutes les possibilités du corps humain, possibilités d'harmonie, de force, de souplesse, d'habileté, d'agilité, d'endurance et d'augmenter le contrôle sur le fonctionnement des membres et des organes, de faire du corps un instrument parfait à la disposition d'une volonté consciente. Ce programme est excellent pour tous, les êtres humains également. Il n'y a pas lieu de vouloir en adopter une autre pour les filles. Quel rôle l'homme et la femme doivent-ils jouer dans notre nouvelle manière de vivre? Quelle doit être leur relation? Mais pourquoi faire une distinction entre eux? Ce sont tous également des êtres humains, essayant de devenir des instruments convenables pour le travail divin, au-dessus du sexe, de la caste, des croyances et de la nationalité, tous enfants de la même mère infinie et aspirant à la divinité éternelle et unique. Quel devrait être l'idéal de la beauté physique féminine? Une harmonie parfaite dans les proportions, dans la souplesse et la puissance, la grâce et la force, la plasticité et l'endurance, et par-dessus tout, une santé excellente, invariable et inaltérable, qui est le résultat d'une âme pure, d'une confiance joyeuse en la vie et d'une foi inébranlable en la grâce divine. Un mot pour finir, je vous ai dit ces choses parce que vous avez besoin de les entendre. Mais n'en faites pas des dogmes absolus, parce que cela leur enlèverait la vérité vraie. L'instinct sexuel dans la nature. Alors, ce texte est un extrait de Sri Aurobindo. Tous les mouvements sont dans leur ensemble des mouvements de force cosmique de la nature. Ce sont des mouvements de la nature universelle. L'individu reçoit quelque chose, une vague, ou une pression de quelque force cosmique qui le pousse. Il croit qu'elle vient de lui, qu'elle est engendrée en lui séparément, mais ce n'est pas le cas. Cela fait partie d'un mouvement général qui agit exactement de la même façon chez les autres. Le sexe, par exemple, est un mouvement de la nature générale qui cherche à se satisfaire et utilise indifféremment un individu ou un autre. Un homme vitalement ou physiquement amoureux d'une femme, comme on dit, ne fait que répéter le mouvement universel du sexe et le satisfaire. Si ce n'avait pas été cette femme-ci, ça aurait été une autre. Il n'est qu'un instrument dans le mécanisme de la nature. Son mouvement n'est pas indépendant. Il en est de même de la colère et d'autres impulsions de la nature. Même dans le monde, il a existé des relations entre un homme et une femme où le sexe n'aurait pas pu intervenir. Des relations purement psychiques. La conscience de la différence de sexe serait là, sans aucun doute, sans pour autant constituer une source de désir ou de perturbation. Mais naturellement, un certain développement psychique est nécessaire avant que cela ne soit possible. N'est-il pas possible d'admirer la beauté d'une femme sans ressentir une attirance sexuelle particulière? Question. Si l'on admirait tout ce qui est beau et pas seulement les femmes sans aucun désir, ce serait sans inconvénient. Mais si l'admiration s'adresse aux femmes en particulier, elle dénote un reste d'attirance sexuelle. C'est évidemment la force sexuelle universelle qui agit. Mais certainement en ont plus que les autres, ont du sexe à pile, comme on dit maintenant en Europe. Ce sont surtout les femmes qui ont du sexe à pile sans même aucune intention consciente de l'exercer sur quelqu'un en particulier. Elles peuvent l'orienter consciemment vers une personne en particulier, mais il peut s'exercer aussi sur beaucoup d'autres qu'elles ne tiennent pas particulièrement à séduire. Toutes les femmes ne l'ont pas, mais une certaine force d'attirance sexuelle est présente chez la plupart d'entre elles. Les femmes exercent évidemment une attirance similaire sur les femmes. Un sourire ou un mouvement, un air ou un geste de la femme peut être le point de départ de ses vibrations. Je ne pense pas que cela tienne au sourire lui-même, Mais tous ces moyens ont toujours servi à stimuler le sexe chez l'homme, ava bava. Et la femme en use, souvent inconsciemment et par la simple habitude. Lorsqu'elle aborde un homme, qu'elle ait ou non l'intention de lui plaire ou de l'émouvoir, le mouvement vient instinctivement. Mais même lorsque la femme sourit sans y penser, sans même le mouvement instinctif habituel, la vibration peut pourtant se produire chez l'homme en raison de son habitude de réagir à l'attirance féminine. Ces mouvements commencent d'une manière presque automatique. Comme vous l'avez déjà écrit, comme je vous l'ai déjà écrit, c'est la réponse automatique du mental, physique ou vital, imagination, qui les prolonge et les rend efficaces. Sinon, les vibrations se dissiperaient au bout de quelque temps. La parure a toujours été utilisée par la femme pour rehausser son sex appeal, comme on dit maintenant. Et l'homme y a toujours été sensible. Les femmes aussi trouvent dans le vêtement masculin un élément de séduction. Par exemple, le prestige de l'uniforme. Il y a aussi une question de goût particulier en matière de costume. Il est tout à fait normal qu'un sari d'une certaine couleur soit séduisant. La séduction agit sur les sens et le vital, alors que le mental, qui a une aversion pour les défauts psychologiques, qui est refroidi lorsqu'ils sont mis à jour, mais cette répugnance du mental ne peut durer face à la séduction vitale qui est plus forte. Question. Il semble que les femmes aient un avantage dans leur yoga. Leur instinct sexuel n'est pas aussi fort que celui des hommes. Il n'y a pas de règle universelle. Les femmes peuvent être aussi sexuelles que les hommes, ou bien plus. Mais bon nombre de femmes n'aiment pas la sexualité, tandis que très peu d'hommes ne l'aiment pas. Un Sukhiev, fils de Vyasya, l'auteur du Mahabharata, célèbre par sa pureté. Même les apsaras, les danseuses célestes, quand elles prenaient leur bain, ne sentaient pas le besoin de se couvrir devant lui, tandis qu'elles se précipitaient sur leurs vêtements quand Vyasya passait, parce que Vyasya était conscient de se trouver devant les femmes. Alors un Sukhdev sur 1 million est donc le fils de Vyasya. Mais une quantité de Dhyan et de Pallas Athéna, en fait, la Vierge est une conception féminine. Les hommes répugnent à l'idée d'une éternelle virginité. Bien des femmes ne se seraient jamais éveillées à l'instinct sexuel si les hommes n'avaient pas jeté sur elles leurs instincts. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qu'on puisse accepter, peut-être nul homme. Mais il y a le revers de la médaille. Les femmes sont peut-être moins physiquement sexuelles que les hommes dans l'ensemble. Mais que dire de la sexualité vitale, de l'instinct d'être posséder et d'être, de posséder et d'être possédé. Une autre question. À propos de notre discussion sur les femmes, permettez-moi de vous soumettre l'opinion de Mère sur la question. Elle dit que les femmes ne sont pas davantage liées que les hommes à la conscience vitale et matérielle, au contraire. Comme elles n'ont pas l'arrogance de prétention mentale des hommes, il leur est plus facile de découvrir leur être psychique et de se laisser guider par lui. Sans doute, Sri Aurobindo, elles peuvent découvrir plus facilement leur être psychique, mais cela ne suffit pas. C'est le premier pas. Ensuite, il faut vivre dans le psychique. Le troisième pas est de faire gouverner l'être par le psychique. Le quatrième, de s'élever au-delà d'un mental. Le cinquième, de faire descendre cet au-delà dans la nature inférieure. Je ne dis pas cela, que cela se fasse toujours dans cet ordre, mais il faut que tout cela soit fait. Je continue. Un autre chapitre, le yoga et la maîtrise du sexe de Sri Aurobindo. La solitude intérieure ne peut être guérie que par l'expérience intérieure de l'union avec le divin. Aucune relation humaine ne peut remplir ce vide. Dans la vie spirituelle, l'harmonie avec les autres doit de même se fonder non sur des affinités mentales et vitales, mais sur la conscience divine et l'union avec le divin. Quand on sent le divin et que l'on sent les autres dans le divin, alors vient l'harmonie réelle. En attendant, il peut y avoir la bienveillance et l'unité fondée sur la perception d'un but divin commun et sur le sentiment que l'on est comme les autres, un enfant de la mère. L'harmonie réelle ne peut venir que d'une base psychique ou spirituelle. J'ai énoncé très brièvement dans ma lettre précédente ma position à l'égard de l'impulsion sexuelle dans le yoga. J'ajouterai ici que mes conclusions ne sont fondées sur aucune opinion mentale, aucune idée morale préconçue, mais sur des faits probants et sur l'observation et l'expérience. Je ne nie pas que, tant que l'on admet une sorte de séparation entre l'expérience intérieure et la conscience extérieure, celle-ci étant laissée à elle-même comme une activité inférieure, contrôlée mais non transformée, il est tout à fait possible d'avoir des expériences spirituelles et de faire des progrès sans une cessation totale de l'activité sexuelle. Le mental se sépare du vital extérieur, les instruments de la vie et de la conscience physique et vit sa propre vie intérieure. Mais très peu de gens peuvent faire vraiment cela d'une manière complète. Et dès l'instant où les expériences s'étendent au plan vital et physique, on ne peut plus traiter le sexe de cette manière. À tout moment, il peut devenir une force qui dérange, bouleverse et déforme. J'ai observé que le sexe, au même degré que l'ego, l'orgueil, la vanité et l'ambition, et les convoitises et les désirs du rajasique, est la cause principale des accidents spirituels qui arrivent dans la sadhana. Vouloir le traiter par le détachement sans l'expérimenter totalement échoue tout à fait. Vouloir le sublimer, comme le préconisent beaucoup de mystiques modernes en Europe, est une expérience tout à fait téméraire et périlleuse, car c'est le mélange du sexe et de la spiritualité qui est la cause des plus grands ravages. Même vouloir le sublimer en le tournant vers le divin, comme dans le Madhura Bhava Vishnuit, comporte de sérieux dangers ainsi que le prouvent si souvent les mauvais résultats d'une fausse tournure ou d'un mauvais usage de cette méthode. En tout cas, dans notre yoga qui ne cherche pas seulement l'expérience essentielle du divin, mais la transformation de tout l'être, de toute la nature. J'ai trouvé que de viser à une complète maîtrise de la force sexuelle est une nécessité absolue dans la sadhana. Autrement, la conscience vitale reste un trouble mélange dont la turbidité affecte la pureté du mental spiritualisé et entrave sérieusement la poussée ascensionnelle des forces du corps. Le yoga exige une ascension complète de la conscience inférieure ou ordinaire et sa fonction avec la conscience spirituelle au-dessus et une descente complète de la conscience spirituelle, finalement de la conscience supramentale. Dans le mental, la vie et le corps, afin de les transformer. L'ascension totale est impossible tant que le désir sexuel bloque le chemin. La descente est dangereuse tant que le désir sexuel a du pouvoir dans le vital, car à tout moment, un désir sexuel non extirpé ou latent peut être la cause d'un mélange qui repousse la vraie descente et se sert à d'autres fins de l'énergie acquise, où tournent toutes les actions de la conscience vers de fausses expériences troubles et trompeuses. Par conséquent, il faut se débarrasser de cet obstacle sur le chemin, sinon il ne peut pas y avoir ni sécurité ni libre mouvement vers l'aboutissement décisif de la sadhana. L'opinion contraire dont vous parlez vient peut-être de l'idée que le sexe est une partie naturelle de l'ensemble vital physique humain, une nécessité comme la nourriture et le sommeil, et que sa totale inhibition peut mener à un déséquilibre ou à de sérieux désordres. C'est un fait que le sexe, si l'on supprime son activité extérieure tout en s'enivrant d'autres manières, peut produire des désordres dans le système et des troubles cérébraux. Telle est la base de la théorie médicale qui déconseille l'abstinence sexuelle. Mais j'ai remarqué que ces désordres se produisent seulement quand une satisfaction secrète et perverti remplace l'activité sexuelle normale ou quand on se laisse aller à cette activité d'une manière vitale subtile par l'imagination ou par un échange vital invisible du genre occulte. Je ne pense pas qu'aucun mal se produise jamais quand il y a un véritable effort spirituel vers la maîtrise et l'abstinence. En Europe, maintenant, bien des autorités médicales soutiennent que l'abstinence sexuelle, si elle est authentique, est bienfaisante, car l'élément d'urétas qui sert à l'acte sexuel est alors transformé en l'autre élément, ojas, qui nourrit les énergies du système mental, vital et physique. C'est la justification de l'idée indienne du Brahmacharya. La transformation d'urétas en ojas et l'ascension des énergies pour les changer en force spirituelle. Quant à la méthode de maîtrise, on ne peut pas y parvenir par une simple abstinence physique. Il faut un procédé combiné de détachement et de rejet. La conscience se détache de l'impulsion sexuelle, sans qu'elle n'ait pas à elle, que c'est quelque chose d'étranger qui est jeté sur elle par la force de la nature et refuse de consentir et de s'identifier. Chaque mouvement de refus la rejette de plus en plus au dehors. Le mental reste impassible. Au bout de quelque temps, l'être vital principal, support de l'impulsion sexuelle, s'en retire de la même manière. Enfin, la conscience physique cesse de le soutenir. Ce processus continue jusqu'à ce que le subconscient lui-même ne puisse plus la faire surgir, ni en rêve, ni dans aucun autre mouvement de la force de la nature extérieure pour rallumer ce feu intérieur. Tel est le processus quand les tendances sexuelles persistent avec obstination. Mais certains peuvent s'en débarrasser d'une façon définitive, en les laissant tomber de la nature, proprement et radicalement, quoique ce soit plus rare. Il faut dire que l'élimination totale de l'impulsion sexuelle est l'une des choses les plus difficiles de la sadhana. Il faut s'attendre à ce que cela prenne du temps. Mais sa totale disparition est chose faisable et il est assez commun d'en être pratiquement libéré, à part quelques mouvements de rêve de temps à autre venant du subconscient. Alors je vais terminer juste en vous lisant un petit passage très intéressant. Mais, mis à part l'assouvissement physique grossier de l'impulsion sexuelle, nous ne saurions exclure ni refuser complètement de reconnaître le principe sexuel dans une vie divine sur la terre. Il est là, dans la vie. Il joue un rôle considérable et il doit être pris en considération. On ne peut pas simplement faire semblant de ne pas le voir, le supprimer tout bonnement ni l'étouffer, le chasser de nos yeux. Et tout d'abord, sous certains de ses aspects, c'est un principe cosmique et même divin. Sous sa forme spirituelle, c'est l'ijwara et la shakti, sans lequel il ne peut y avoir de création cosmique et de manifestation du principe cosmique de Purusha et de Prakriti, tous deux nécessaires à la création, nécessaires aussi par leur association et leur rapport au jeu du fonctionnement psychologique de l'univers et par leur manifestation en tant qu'âme et nature, essentielle au déroulement total de la lila. Dans la vie divine elle-même, une incarnation de ces deux pouvoirs, ou du moins leur présence, sous une forme ou une autre, ou leur influence inspiratrice à travers leurs incarnations ou leurs représentants, serait indispensable pour rendre possible la création nouvelle. Dans son jeu humain, au niveau mental et vital, le sexe n'est pas un principe foncièrement non divin. Il a ses aspects nobles et son idéalisme. Reste à voir de quelle manière et dans quelle mesure ces éléments peuvent être admis dans la vie nouvelle plus large. L'amour de l'homme et de la femme devra subir aussi cette sublimation, parvenir à son haut sommet, car tout ce qui est capable de sentir l'appel de l'idéal et de l'esprit doit pouvoir suivre le chemin de l'ascension jusqu'à ce que soit atteinte la divine réalité. Le corps et ses activités doivent être acceptés et faire partie de la vie divine passée sous la loi, mais comme il en est des autres transitions évolutives, ce qui ne peut pas accepter la loi de la vie, ce qui ne peut pas accepter la loi de la vie divine, ne doit pas être accepté. Et il devra quitter notre nature en ascension. Alors, il y a un nota bene à Ishvara. Ishvara, c'est le Seigneur suprême, l'éternel, la transcendance divine. Et Shakti, la force créatrice, la mère divine. Au niveau de la création, Ishvara Shakti, être double, deviennent Purusha Pakriti, Purusha, l'âme par rapport à l'opposition à la nature Pakriti, l'être par opposition au devenir, la base consciente sur laquelle se déroule le jeu de la Pakriti. Lila, le jeu cosmique divin. Extrait des œuvres de Sri Aurobindo et Mère, la femme. Merci Sri Aurobindo, merci infiniment à Douce Mère en ce mois de février du 50e anniversaire d'Auroville. Merci Mère. Merci, Sri Aurobindo. Ganga Lakshmi.